Donc, souvent, quand il va rencontrer des clients, il prend de l'argent en cash. T'sais, peu importe le métier qu'il fait, là, si Hells Angels c'était un métier, n'en demeure pas moins qu'il a de l'argent constamment cash dans ses poches. Puis la policière a dit, ben, je dois réquisitionner cet argent-là. Puis Martin Gamache ne comprenait pas. Il a tout filmé ça, là, le fait qu'il s'est fait retirer son fameux 4 000 $. Puis sur les réseaux sociaux, sur TikTok du moins, ça a fait un tollé. Puis il y a des gens qui ont commencé à faire des recherches. D'où ça vient, ce fameux règlement-là? Comme quoi, tu n'as pas le droit d'avoir autant de cash dans tes poches. Bien, c'était inclus dans le projet de loi 54. Qui a été adopté en mars 2024, que j'ai pas vu passer, bien honnêtement. Je ne sais pas, Pascal, non. Si tu l'avais vu passer. Là.
C'est un peu sous la couverture, mais j'ai vraiment l'impression que ça a été passé pour être capable de capter plus de criminels et se donner un droit de saisie. Parce que tu ne peux pas intercepter n'importe qui pour n'importe quel motif. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que l'étau se resserrait puis il n'y avait pas la grippe pour aller essayer d'enquêter plus sur une personne.
Ouais. Donc, on a cet argent-là a été réquisitionné. Puis, dû à ce nouveau règlement-là, fait que toute somme de 2 000 $ et plus, dont l'origine ne cadre pas avec les pratiques des institutions financières, est présumée être un produit d'activité illégale. Donc, si toi, Pascal, tu as 4 000 $ dans tes poches pour acheter un véhicule à un indépendant, si jamais il y a un policier...
Mais c'est 2 000 même, hein?
Ouais, c'est 2 000.
Mais si jamais il y a un policier qui dit « Hey, je vois que tu as de l'argent comme sur le banc passager, j'ai pas le choix de te le réquisitionner », ça semble être un peu injuste là, pour la majorité des citoyens.
Sauf que, combien de fois... Pour combien de citoyens ça arrive que tu as une coupe de liasse qui fait un cumul de 2 à 4 000 $? Ouais.
C'est sûr que c'est arrivé à Gamache qui est un Hells Angels notoire.
C'est sûr mais que ça arrive de moins en moins.
Mais là, je me vois pas beaucoup. T'sais, je sais pas à quelles circonstances. Là. Je pilerais mon cash à même, j'aurais plus peur de le perdre. Là.
Oui. Puis on sait que les gens utilisent de moins en moins l'argent liquide, notamment depuis la pandémie, parce que on s'est mis à faire du paiement interact pas mal parce qu'on voulait pas toucher à l'argent liquide. Mais la question. C'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent liquide. Est-ce qu'il va d'abord survivre? Est-ce que dans 10 ans, il y aura encore de l'argent liquide? Il faut qu'il y ait encore de l'argent liquide parce que on prépare tranquillement des monnaies numériques. On sait, dans l'Union européenne, on prépare un euro digital qui, dans un premier temps, va être parallèle à l'euro cash. Et le problème de ces monnaies-là, c'est qu'elles elles peuvent être centralisées par les États. Et c'est le risque de traçage et donc l'accès aux données. Puis on le sait qu'on vit dans un environnement où l'infrastructure numérique siphonne nos données constamment.
Ouais. Ils veulent tout le temps nous contrôler.
D'une certaine façon, je ne l'aurais pas dit aussi fortement, mais disons là que oui, ça, on peut parler effectivement de contrôle. Donc, il y a des risques pour la confidentialité, pour les libertés publiques. Donc, dans l'Union européenne, il y a des gens qui se penchent là-dessus. En fait, l'Union européenne est déjà en train d'élaborer un euro numérique. Et l'infrastructure, c'est-à-dire il y a plusieurs façons d'organiser ça. Et il y a une manière qui, malheureusement, qui serait centralisée, puis serait compliquée. Là, tout ça, c'est du numérique. Là. Il fallait que je me penche là-dessus comme journaliste, puis que je fasse un effort aussi intellectuel pour comprendre tout ça. C'est vraiment de l'économie. Là. Mais l'infrastructure qu'on pourrait donner à cette devise-là numérique permettrait au gouvernement, finalement, d'avoir accès un peu à tout ce qu'on a acheté. En gros, le résumé, là. Donc, à partir du moment où les gouvernements, dans quelques années, savent exactement ce que vous avez acheté, quelle transaction, est-ce que vous consommez de l'alcool, est-ce que vous consommez un médicament, achetez-vous un antidépresseur à la pharmacie, avez-vous consommé, tu sais, ça pose un risque. C'est-à-dire qu'on a accès, finalement, à tout sur vous. Et donc, la disparition progressive de l'argent liquide, c'est pas à sous-estimer, c'est pas banal. Donc, moi, je pense qu'il faut maintenir, en fait, l'argent cash. C'est important qu'on puisse encore, en fait, faire des transactions en argent cash. Et, évidemment, les histoires ou les lois où on visera à criminaliser potentiellement des sommes d'argent. C'est-à-dire, moi non plus, je ne traîne pas 2 000 $ sur moi, ça m'arrive assez rarement. Mais est-ce que, progressivement, c'est des mesures qui vont amener les gens de plus en plus à abandonner l'argent liquide? Peut-être à des fins, effectivement, de contrôle social. Puis il y a toutes sortes de technologies émergentes aussi qui peuvent contrebalancer tout ça, comme justement les crypto-monnaies qui, elles, c'est complètement le contraire. C'est la décentralisation de la chaîne. Ça aussi, c'est assez technique comme truc. Mais l'argent cash, c'est important qu'on en ait pour conserver, en fait, la possibilité même de l'anonymat des transactions.
Mais ce qui m'agace en plus, c'est pour le projet de loi 54 qui a passé en mars 2024, qui dit que si tu as 2 000 $ dans tes poches, ça pourrait être considéré comme une activité illégale, donc le policier est en droit de te les réquisitionner. Ce qui m'agace, c'est qu'il n'y a plus de présomption d'innocence.
Ça aussi, c'est énorme.
On te considère comme coupable, alors que ça va un peu à l'encontre de la Charte des droits et libertés.
C'est ça, ça c'est un point aussi, tu vois, c'est un renversement dangereux.
Donc, coupable toutes sortes de... cible d'enquête.
C'est parce que pour les criminels, pour nous, c'est tout à fait logique qu'on retire le 2 000 $ ou qu'on retire le 4 000 $. Mais que toi, Pascal,
oui,
une citoyenne qui a toujours respecté les lois, tu as un véhicule à acheter, le monsieur, il est d'une autre époque, puis il dit, moi, ton argent numérique, ça ne m'intéresse pas, je veux de l'argent cash. Tu pars avec ton 2 500 $, tu te fais arrêter sur l'autoroute, puis le policier dit, ben moi, je te prends ton 2 500 $ parce que je pense que ça vient d'une activité illégale. Puis là, toi, il va falloir que tu le justifies par la suite pour récupérer cette somme-là. Puis ton char, tu ne pourras pas l'acheter parce que le bonhomme, il l'attend, le 2 500 $.
Mais ça me semble une situation qui n'arrive pas régulièrement. Puis je me dis, en ce moment, dans toute
je
la... c'est là où je me questionne, puis je brainstorm dans ma tête.
Mais c'est une portion de liberté que tu perds.
Jusqu'au moment où on demande un peu un ressaisissement de la situation par rapport au crime organisé dans une séquence très difficile à contrôler dans le milieu policier, dans le milieu de l'enquête, des grippes qui ont été vraiment très fortes, des racines bien enracinées à travers le temps, puis une montée de tension. Est-ce que c'est une manière d'ouvrir une porte à peut-être un petit peu plus de surveillance qu'on n'avait pas auparavant, puis qu'on n'est pas tant d'accord avec cette nouvelle mesure-là, mais que c'est celle qu'on a trouvée pour intercepter. Moi, je suis capable de passer outre mes droits en ce moment si on est capable d'intervenir.
Oui, mais c'est ça le glissement. C'est-à-dire c'est toujours quand même au nom de des situations exceptionnelles, au nom de la sécurité des gens, qu'on va effectivement glisser tranquillement. Ça se fait graduellement.
Il y en a qui
perds de
bien
tes libertés individuelles au nom
mais c'est sûr, c'est frustrant,
de la sécurité.
Là, ça peut être frustrant devant des Hells Angels qu'on sait, ça fait des années, quand tout le monde sait qu'ils sont qui baignent
là-dedans.
Là,
on parle, là,
là-dedans.
On n'est pas dans un débat d'idées. Toi, t'as raison, toi, t'as pas raison. T'sais, on est en train de jaser sur ça serait quoi sinon nos possibilités dans ce cas-ci. Parce que combien de personnes on a échappé parce que justement, on n'avait pas le mandat ou la perquis ou la possibilité d'arrêter. Et là, c'était peut-être une sélection culturelle mal faite d'intercepter une personne. Puis on avait peut-être une autre façon de passer, mais on n'a pas été capable. Finalement, il a fallu relâcher 10 criminels qui en étaient un officiellement en liberté. Je me questionne juste à savoir quelles sont les solutions. Est-ce que ça, c'en est une? Est-ce que ça va être utilisé à bon escient? Beaucoup, beaucoup de choses là-dedans, mais dans la balance.
Moi, je pense qu'il faut être méfiant.
Mmh. Oui.
Parce je comprends que, ce que tu veux dire. C'est frustrant de ne pas avoir, de pas pouvoir avoir les instruments.
Je comprends qu'on veut resserrer personnes. Les règles autour des activités criminelles. Ça, je le comprends. Mais le problème, c'est que ça touche toute la société en général. Ça va à l'encontre des droits et libertés parce que le policier te considère comme un criminel
potentiel.
Parce que tu as 2 000 $ pour aller acheter un autre véhicule. Ça va complètement à l'encontre. Puis on assiste actuellement aux gens qui s'en foutent là, en disant « Oui, mais là, ça va permettre à un Martin Gamache de se faire réquisitionner 5 000 $ qu'il aurait peut-être eu de façon illégale, ça va permettre aux policiers d'arrêter cet individu-là puis prendre son argent. Je comprends, mais ça s'appelle le phénomène pas dans ma cour. C'est que tant que ça te touche pas,
ça
te dérange pas, mais la sécurité est augmentée jusqu'à temps où que toi, le citoyen modèle, que tu utilises l'argent cash puis le policier te retarde de 30 jours dans tes achats parce qu'il juge que toi, tu es un criminel parce que tu as 2 000 $ sur ton banc pour aller acheter un autre véhicule. T'sais. C'est pas de leurs affaires, notre argent cash. Ça doit rester à nous.
Ah oui, non, moi, je crains plus le glissement. Puis, tu vois, l'aspect pratico-pratique, on le comprend. Par exemple, aux Îles-de-la-Madeleine, bon, quand on a voulu instaurer le pass archipel, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, tout le monde comprenait qu'il manquait d'argent pour les infrastructures touristiques aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, tout le monde disait, OK, il faudrait payer un pass. Bon, est-ce que
puis,
c'est...
Il avait prouvé que le tourisme avait frité les dunes, puis on avait une problématique.
Puis, durant la pandémie, les gens avaient...
pieds et pouces, en fait, de dunes qui s'étaient fritées, puis on voulait protéger, là, comme bien des endroits dans le monde.
Fait que, tu sais, oui, tu as une situation... qui est comprise par les gens, mais après, ça donnait quand même concrètement aux policiers ou en tout cas à la personne qui aurait été appelée à faire respecter ce règlement-là, le pouvoir de carter finalement n'importe qui sur l'île. Parce que bon, êtes-vous résident?
Avez-vous payé votre passe?
Donc imaginez, là, c'est pas très long
que
des situations concrètes.
Par contre, là, avant d'arriver.
Oui, mais ça donnait quand même ce pouvoir-là concrètement, en tout cas théoriquement,
qui à
des agents.
Oui, qui est à discuter.
Bon, avez-vous votre passe? Donc, avez-vous
t'es chez vous,
pour papier d'identité?
T'es chez vous.
Donc, il y a quand même un glissement. Et, ben, et là, c'est, au Québec, c'est à petite échelle. Tu sais, bon, le crime organisé, bon, il y a une montée actuellement, mais ça reste pas très important par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Mais si on prend des situations plus extrêmes, entre guillemets, comme c'est un cas vraiment extrême, le Salvador, où vraiment on a mis 80 000 personnes en prison sans procès parce que, justement, on a fait une espèce d'état d'urgence. On a décrété un état d'urgence qui permet aux policiers, finalement, d'arrêter n'importe qui a un tatouage d'en face. Là, c'est un cas qui est extrême, mais ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Au nom de votre sécurité, état d'urgence, on peut rentrer chez vous. OK, on a le droit de faire ça. Tout d'un coup, vous êtes un criminel, on a le droit de rentrer chez vous. Liberté de circulation, pourquoi vous êtes ici, monsieur? Est-ce que vous habitez dans cette ville-là? Mais en même temps, je dis que c'est un cas extrême, mais c'est le même fonctionnement partout. C'est-à-dire, à partir du moment où... au nom de votre sécurité, votre protection, puis la lutte au crime organisé, vous suspendez des droits, ça se peut qu'il y ait des dommages collatéraux, puis qu'un jour, ça soit des citoyens, malheureusement, lambda, qui fassent les frais de ce contrôle social accru. Donc, il faut faire attention. Là, il faut voir ça de manière plus... voir le portrait global, puis pas se limiter à dire, là, on veut arrêter ce gars-là, Gamache, mettons. Mais non, les répercussions peuvent être beaucoup plus larges que ça.
C'est ça.
Puis relèvent du droit, puis de l'effritement, effectivement, de l'état de droit.
Puis ce qui est weird, c'est que, mettons que tu voulais de l'argent cash pour aller te promener là, aux États-Unis, OK? Fait que tu t'en vas là, puis tu reviens, t'as 10 000 piastres cash dans tes poches parce que t'étais aux États-Unis, puis il t'en reste de l'argent. Tu peux passer aux douanes canadiennes sans aucun problème. Mais tu vas arriver au Québec et si ce 10 000 piastres-là qui est accepté aux douanes canadiennes, qui était déclaré, si ce 10 000 piastres-là est dans ton wagon, ils vont dire « on est obligé de te le réquisitionner, c'est probablement des activités criminelles ou illicites ». Ça n'a pas de bon sens que ça ait passé, ça. Mais on comprend pourquoi là, que ça a passé. C'est parce qu'on voulait mener la vie dure aux criminels, mais c'est parce que ça touche le citoyen ordinaire t'sais, maintenant.
Est-ce la bonne solution? C'est là où on se questionne. Puis là, clairement, mettons, tout le monde a son opinion. Yannick, clairement, c'est non.
Moi, ça Jérôme, le policier.
Je sais pas où tu te situes par
c'est,
rapport à ça.
C'est non, là, dans le sens où c'est plate que ça puisse permettre à des criminels d'opérer plus longtemps. Mais moi, il faut préserver une diversité de moyens de paiement. C'est vraiment très...
Je suis divisé. Il y a des choses pour lesquelles, mettons, le droit personnel, je suis quand même assez intransigeante, mais cela, je suis mitigée. Est-ce que ce serait d'augmenter le montant? Clairement, je sens que de votre côté, c'est pas ça. Sinon, est-ce qu'on pourrait réfléchir à une autre situation? Est-ce qu'il y aurait une preuve de ticket de caisse? Là, il y a beaucoup d'auditeurs qui l'envoient. Qui sera monté avec
on
n'est
pas des criminels parce qu'on a 2000 piastres dans les poches. C'est la présomption d'innocence. On n'est pas des criminels parce qu'on a 3000 piastres dans les poches. Moi, si un policier m'arrête sur l'autoroute 20, puis il me dit « Hey, je vois que tu as une enveloppe, là, il y a de l'argent dedans. Oui, je m'en vais acheter une voiture. OK, tu as pris cet argent-là où? » Bien, dans mon compte de banque. Si il m'enlève cet argent-là puis il me retarde de 30 jours, tu peux être sûr que je vais me mériter un billet de contravention pour insulte sur un agent de la paix parce qu'il va faire preuve d'un flagrant manque de jugement, là. Moi, là, il va vérifier mes plaques d'immatriculation. Est-ce que je suis en règle? J'ai-tu mes assurances? J'ai-tu un dossier criminel? Non, parfait. Puis là, j'ai une enveloppe avec de l'argent où je dis clairement que je m'en vais acheter un véhicule. Puis il me traite comme un criminel. Ça n'ira pas, là.
Mais moi, je me demande si vraiment il l'appliquerait. Mettons qu'ils prennent tes cartes, ils vérifient. Là, puis voit, t'es pas fiché. Ils voient que t'as pas rapport. Puis, tu sais, ils connaissent ces gens-là. Là, sont fichés. Des fois, il y a des mandats d'arrestation ou autre. Est-ce que le policier pourrait avoir un jugement personnel? Puis faire comme, est-ce correct, Yannick?
On peut s'y attendre.
Moi, je réfléchis avec vous, là. Mais je pense qu'il y aurait peut-être cette possibilité-là.
Mais quand les gens entendent ça là, dans la population, là, ça veut dire que, y a des gens qui ont de l'argent liquide chez eux. Des gens qui ne font pas confiance non plus encore aux banques. Est-ce qu'on a le droit, dans une société libre, de ne pas avoir 100% confiance aux banques? Moi, ça ne me concerne pas. Là. Moi, j'utilise très peu d'argent liquide, puis je devrais peut-être en utiliser plus pour prêcher par l'exemple. C'est pas pour moi, tu sais, durant la pandémie, des fois, on entendait des affaires, des gens disaient moi, le couvre-feu, de toute façon, je me couche à 8 heures. Ouais, mais la question, c'est pas toi, là, on sent pas mal que tu te couches à 8 heures.
C'est
la question, c'est l'état policier actuellement, puis les répercussions à long terme. C'est pas que toi, tu te couches à 8 heures, là, tu sais, la question, c'est pas ça. Fait que la question, ici non plus, c'est pas celle-là. Qu'est-ce qu'on disait?
C'est le pas dans ma cour. C'est que les gens se disent, c'est pas grave, moi, ça me touche pas.
C'est ça.
Je retire jamais plus que 40$ là, au guichet automatique. C'est pas grave, c'est un
règlement. On parlait du jugement policier.
Ah oui, du jugement.
C'est là où que tu voulais aller.
Ils ont un pouvoir de discrétion. Pas un pouvoir de discrétion, un pouvoir...
Puis la confiance, c'est ça, aux banques, tout ça. Donc, on est quand même contraint, il faut l'avouer, de composer avec un système qui est le système banquier. Puis il y a des gens qui peut-être voudraient faire d'autres choix, transiger en argent liquide, encore là, pour des questions aussi de confidentialité. Ouais. Parce que malgré tout... Écoutez, au Canada, durant la pandémie, je pense qu'il y a eu 30 millions de téléphones sous écoute au Canada. Là,
oui.
Qui n'étaient pas tout à fait sous écoute, mais qui monitoraient, disons, les déplacements.
On regardait,
faut pas sous-estimer ce qu'on appelle l'identité numérique. Là.
Ça, j'ai plus de difficultés, vois-tu, moi, là-dessus.
Mais on est là-dedans, mais tout ça, c'est...
Je prends cas par cas, puis j'essaie de réfléchir, puis je me demande où ma limite personnelle, puis il y a Pascal, la communauté,
il y a
les enjeux. Tu sais, celui-là... Moi, me cause beaucoup plus de problèmes. Là.
Mais il faut relier les points. C'est-à-dire que ça participe du même esprit global qu'est-ce qu'on appelle la société de surveillance
en
même sociologie.
Temps,
là.
Ah oui, sauf que je ne suis pas une globalité dans ma vie. Là. Je pense que, mettons, tout le monde a quand même le droit d'avoir des aspects différents sur un même aspect. Là. Je pense que je suis une personne extrêmement sérieuse. D'un côté, je suis une personne extrêmement funky. C'est l'exemple que je vais donner. Fait que dans ceci, moi, je pense que tout ce qui est communication ou encore les Siri de ce monde ou les Google Home ou les gens qui pourraient être écoutés sur des téléphones cellulaires, tes conversations qui n'ont rien à cacher, j'ai plus de difficultés, vois-tu? C'est là où moi, je décroche un peu plus.
Ouais, parce que le policier qui va t'arrêter sur l'autoroute, il a un droit discrétionnaire. Mais combien de policiers vont l'appliquer, ce droit discrétionnaire-là, en disant « OK, moi, je crois en ton histoire, m'a te laisser partir. » Tu sais, idéalement, ça serait 99,9%, mais ça va-tu être ça, tu sais?
Oh, certainement pas, là. En plus, tout le monde a sa propre personnalité là-dedans, même s'il y a un autre policier.
Faut pas être parano, tu sais. Moi, je pense pas que... Il faut pas être parano. C'est-à-dire, je pense pas que demain matin, même si quand même bien que j'aurais 3000 pièces dans mon char, je me ferais arrêter puis je finirais devant les tribunaux. Là. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais il faut regarder ça, c'est ça, encore une fois, dans la globalité du phénomène, l'aspect juridique, économique. Et moi je le répète, je crains un glissement, c'est-à-dire vers une société où, effectivement, les droits et libertés sont moins assumés. Et une société qui est moins libérale, qui est un petit peu plus autoritaire. Et ça a des conséquences. Ouais. C'est un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on ne vivra plus exactement dans le même monde. Et on le sent, là, les années 70-80, là, regardez juste les films. Là, c'est un autre esprit. Là. On vit dans une société quand même qui est plus rigide, où on surveille plus ce qu'on dit. Bon, peut-être pas à boulevard, là, mais il reste des espaces de liberté, heureusement. Mais on change de monde tranquillement. T'sais, on ne veut pas aller vers une société à la chinoise où le gouvernement sait que tu as mangé chez Ashton hier soir. Ou, fais-tu... Manges-tu bien? Attention, tu perds des points. Là tu t'es mangé au Ashton hier soir, ou en tout cas hier midi. Là, tu es une menace pour la santé publique parce que bon, ton taux de cholestérol sera pas bon, tu vas coûter plus cher, paye plus cher.
Tu vas avoir un mauvais bulletin citoyen.
Exact.
Ouais. Donc, là, les gars, là.
Là, vous allez dire, c'est parano. On a vu
là,
mais...
là, le Black Mirror à Québec, là.
J'ai vu.
Le Black Mirror en studio à Boulevard 102.
Au casino de Montréal.
Octobre 66. C'est arrivé quand même Il y a eu des épisodes dans l'histoire du Québec où les droits ont été suspendus, notamment la pandémie, mais durant octobre.
J'ai eu une alarme pendant le temps des fêtes là, qui m'ont dit on vous rappelle que vous devez rester à l'intérieur de votre maison. Je pensais jamais vivre ça de toute ma vie.
Elle était épeurante en plus.
Oui. Mais j'ai vu au Casino de Montréal il y a de ça quelques semaines, Jérôme, un homme qui a dépensé presque $1 million. Sur une table. Okay? C'était la fameuse roulette avec la bille qui tourne. Là. Les couleurs noires, rouges avec des chiffres et tout ça. À côté de moi, il a dépensé presque $1 million. Puis le croupier chef, qui est comme derrière, là, qui surveille un peu tout ce qui se passe sur les tables dans son environnement, il est venu voir le client puis il a dit « On a besoin de connaître la source de vos revenus. » Puis le monsieur, il a pris un petit tombeau en disant « Toi, tu vas crisser ton camp, tabarnak. » Puis ils l'ont pas écœuré. Mais ils veulent savoir quand même d'où vient l'argent qui est perdu au casino. C'est fou,
oui, quand même.
Parce que le monsieur avait perdu énormément d'argent, mais il ne voulait pas dire d'où venait son argent. Puis ils l'ont laissé jouer. T'sais, moi, tant qu'il n'y a pas de victime, écoute, il n'y a pas de victime, là, il perd. Si jamais ça avait été le fruit de la criminalité, au moins on récupère quelque chose de ça, tu sais. Mais ça m'avait surpris, moi, que le chef croupier vienne voir un client en disant « On a besoin de connaître la source de vos revenus. »
Mais non, la traçabilité. Après ça, bon, on dira quand on n'a rien à cacher, oui, mais veut pas... Ça permet de vivre dans une société où on fait de la prédiction, on prédit les comportements, puis on finit par toujours être monitoré, puis on devient un objet d'étude en permanence. En fait, c'est ça le truc. Là. Les compagnies monitorent votre comportement et en tirent des règles, c'est-à-dire des lois. et vous devenez, c'est ça, un produit de consommation de vous-même en permanence parce qu'on connaît ce que vous achetez, on connaît votre profil, tout ça. La carte Inspire, tout ça. On remarque
que c'est Pascal, pratique, la carte d'Inspire. Pascal nous niaise avec Black Mirror, là. Mais souviens-toi, quand il y a eu le dictateur de la Corée du Nord qui était décédé, les gens qui étaient où le cortège, qui braillaient là, comme d'une façon, tu disais un peu, ça n'a pas de bon sens qu'il y ait 5000 brailleuses de même. Là. Hommes comme femmes, ça braillait. Puis on a appris par des journalistes qui couvraient l'événement que sont forcés de pleurer de cette façon-là.
C'est une bonne nouvelle, parce que le contraire a été plus troublant.
Parce qu'eux, ils ont des bulletins citoyens. Fait que tu peux pogner des amendes, puis ça va te... En fait, ils vont te donner... Tu vas perdre des points, puis t'auras pas... Si t'as pas le nombre de points efficaces, t'auras pas accès au meilleur job. Au job le fun, tu sais. Ça se peut que si tu pleures pas, puis t'es filmé... Ça se peut que si tu pleures pas, puis t'es filmé, tu te ramasses comme, je sais pas moi, ils te font faire une job de marde, tu sais. C'est fou, là. Mais Pascal a dit que c'est Black Mirror, mais nous autres, on l'a vu de nos yeux vus.
Ah ouais, la pandémie, ça a été dystopique au Québec.
Il y a pire que ça, là, dans ces régimes-là, Yannick, là. T'sais, je veux dire, s'il y en a une qui est fan et politisée internationalement, c'est moi, là. C'est quelque chose qui me fascine depuis toujours. Je parlais de la Chine, Jérôme, il y a 10 ans à la radio, personne ne m'écoutait. Personne qui me donnait attention dans mes collègues, puis presque les auditeurs. La pandémie arrive, j'ai jamais eu autant d'appels.
Les gens ont commencé à s'intéresser à la Chine.
À la pandémie. Moi, je l'ai vu, le changement chinois, total. Ouais, ben, oui, puis l'implication.
L'origine du virus, bien sûr.
Exactement. Wuhan, ça, c'était fascinant. Là. Maintenant, on a même des nouvelles ici. Tandis que pendant ce temps-là, en Europe, c'était partout dans les journaux. La Chine avait toujours été précurseur de plusieurs des articles. Puis encore l'année passée, quand j'allais à Paris et Londres, moi, je ramassais les journaux de partout pour voir qu'est-ce qui est le talk of the town. Puis bien avant leurs nouvelles de leur secteur et de leur pays,
ça doit être
la
chiant
Chine
voyager
encore,
avec toi,
là.
Pareil.
Ben, ça dépend ce que t'aimes.
T'es en voyage, puis elle fait une revue de presse à côté de toi.
Moi aussi, je fais ça.
Hein. Ben, ça dépend des atomes crochus.
Je vous laisse, je m'en vais. OK. Jérôme Blanchet-Gravel, on te retrouve sur LibreMédia.com
avec un trait d'union.
Un gros merci.
Un plaisir.
Into Deep, Sum 41, on revient tout de suite après.